France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité a choisi de parler d'un classique de la philosophie. Celui qui, avec son « je pense, donc je suis », continue encore à influencer l'ensemble de la discipline et même au-delà. C'est le discours de la méthode de René Descartes.
Nous sommes un pays logique, nous sommes un pays cartésien et c'est un peu une catastrophe pour nous. Parce que d'être trop cartésien, trop logique, ça a beaucoup d'inconvénients. On aime bien les modèles, on croit que les modèles correspondent à la réalité. Il manque quelque chose pour être vraiment bien en phase avec le réel. Et nous risquons d'aboutir à une race d'abstractocrates. C'est un mot de mon invention, mais je crois qu'il n'est pas très facile à prononcer, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Ils ont été nourris d'abstraits, ils sont brillants, ils ne doutent pas d'eux-mêmes, ils n'ont pas de doute, pas, presque pas, mais ils construisent le monde selon leurs possibilités intelligentes et abstraites. Et la science a quand même une importance, et les techniques ont une importance, car actuellement, on se demande si l'on peut être heureux dans un monde dans lequel il y a cette menace de la destruction complète de quelques microsecondes des bombes atomiques de l'humanité. Est-ce que malgré ça, on peut être heureux? Est-ce qu'on peut être heureux dans un monde où les grands ordinateurs semblent supprimer, au fond, le caractère humain d'une entreprise? Est-ce qu'on peut être heureux dans un monde où les nuisances augmentent et où la pollution augmente et où l'environnement n'est pas respecté?
Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes philosophe, enseignante de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On vous doit plusieurs ouvrages de philosophie. Je cite les plus récents, La splendeur du monde, paru chez Stock. Ce que la philosophie doit aux femmes, coécrit avec Laurence Hansen-Love. C'est paru aux éditions Robert Laffont. Des ouvrages aussi sur Descartes. Vous avez entendu cet archive de 1972. Vous trépignez pour savoir... Qui dit ça sur notre monde cartésien, car vous avez choisi Descartes. Alors je vous le dis, c'est le physicien français Louis Le Prince Ringuet. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette archive?
Alors ça m'a agacée. Ça m'a agacée profondément d'abord parce que je trouve qu'on fait de Descartes un bouc émissaire facile. Enfin, on fait reposer sur lui... Beaucoup d'erreurs dites de l'Occident, la séparation nature-culture, beaucoup de séparation, l'âme et le corps, l'abstraction et le réel, c'est ce qu'il y avait dans ce méchant compliment adressé à Descartes.
Mais quand même, fait abstractocrate.
Abstractocrate, c'est tout sauf Descartes en réalité. Et voilà ce qui m'agace, c'est-à-dire que on a eu besoin de construire un Descartes qui n'est pas Descartes. En fait, on a eu besoin d'un cartésianisme. Pour plusieurs raisons, hein, mais on a eu besoin de ce cartésianisme qui ne rencontre pas Descartes. D'une certaine façon, il faut sauver Descartes du cartésianisme. Et moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé de retrouver, de retrouver l'homme derrière le cartésianisme. Mais oui, parce qu'avec Descartes, on retrouve l'homme, bien sûr, c'est absolument incarné comme philosophie.
Quelle différence vous faites entre le cartésianisme et Descartes, justement, Laurence de Villers?
Alors, parce que d'emblée, Descartes a été un enjeu français, hein, pour une bonne part, avant de devenir un enjeu pour tout le monde, dès la construction d'une philosophie française universitaire qu'on enseignait avec Victor Cousin, on a fait de Descartes une sorte d'instituteur, de professeur... De la rectitude, de l'abstraction justement, de l'assurance rationaliste. Alors en fait, quand on lit Descartes, on se rend compte à la fois que c'est tellement plus riche que cette construction et tellement pas ça.
Alors c'est qui pour vous Descartes? Et notamment peut-être le Descartes du discours de la méthode, parce que c'est ce texte-là que vous avez choisi, pas les méditations métaphysiques, alors qu'en fait on retrouve quand même dès ce discours de la méthode, on va dire les grands tubes hein, du cartésianisme, en tout cas de René Descartes. Je pense donc je suis, donc le cogito, le pilote dans son navire, nous rendre comme maître et possesseur de la nature, il y a déjà tout là en germe dans ce texte.
Il y a tout ce qu'on a détesté. Nous rendre comme maître et possesseur, le « je pense, donc je suis », qu'il a lui-même critiqué, le pilote en son navire. Alors, j'ai choisi, parce qu'il y a un passage dans le discours de la méthode qui m'a marqué à vie, puisque vous m'avez demandé hein, qu'est-ce qui me suit et me poursuit depuis toujours. Il se trouve que c'est dans le discours de la méthode, mais j'aime tout Descartes.
Vous jetez rien.
Ah non, je jette rien du tout. Quand vous m'avez demandé de choisir, alors évidemment, il y a ce passage des méditations qui n'a rien d'incogito, puisqu'il n'a pas aimé la formulation qu'il avait donnée dans le discours de la méthode et qui est dans sa langue, le latin, « ego sum », « ego existo », « moi je suis ». Moi, j'existe. Ça, c'est... Quand je l'ai lu la première fois, j'ai eu l'impression que j'atteignais à quelque chose que j'avais cherché très longtemps. Et puis, donc, il y a ce moment central dans les méditations, puisqu'il préfère cette expression-là, je pense, donc je suis, parce qu'il veut surtout pas qu'on se saisisse soi-même dans son existence.
Donc, c'est pas l'être, c'est l'existence, c'est ça?
C'est l'existant... C'est la répétition. C'est curieux d'ailleurs qu'ils disent, d'abord ils répètent le sujet, parce qu'en latin on n'a pas besoin, on aurait pu avoir sum et existo. Ego sum, ego existo, pourquoi ils dupliquent l'être par l'existence. Donc je pense que c'est pour aller vers le plus concret possible, dire c'est pas seulement une proposition qui est vraie, comme dans le discours de la méthode. C'est une expérience métaphysique, une expérience tout sauf abstractocrate, c'est une expérience la plus troublante et la plus métaphysique qui soit. Et pour tout vous dire, je crois que c'est d'une telle puissance que je suis pas sûre d'avoir encore tout compris de ce fameux ego sum, ego existo. Alors que, j'ose pas compter les années, mais la première fois que j'ai lu Descartes, j'étais bien jeune, avant la terminale. Après, bon, il m'a suivi toute ma vie, hein. Je suis pas sûre de l'avoir bien saisi dans toute sa profondeur.
Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on comprend? Donc, avant la terminale, j'imagine vers 16, 17 ans, voilà, vous avez découvert Descartes. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous l'avez ouvert et qu'est-ce que vous pensez avoir compris à cet âge-là de lui?
À cet âge-là, d'abord, j'ai compris que c'était beau. Moi, je suis très sensible à la beauté des textes de philosophie, quels qu'ils soient. Et parfois, je peux détester un texte de philosophie parce que je le trouve pas beau. Mais Descartes, je me souviens très bien, ça m'a frappé parce que c'était une architecture. Enfin, j'ai eu l'impression de me promener dans un bâtiment d'une beauté, pour moi, d'une beauté exemplaire. Donc, je suis pas sûre d'avoir compris. J'ai compris qu'il y avait un jeu, déjà, dans le discours de la méthode. Donc ça, c'était quand même révolutionnaire. Il y avait un jeu. C'est ça qui fait qu'on sent l'homme derrière le texte. Et puis, parce que c'était d'une grande beauté, et j'avais bien le sentiment, sans comprendre, hein, mais que cet homme-là, ce philosophe, qui était absolument pas prof, et ça m'intéressait. J'étais quelqu'un de très rebelle, donc toutes les figures rebelles m'intéressaient. Que cet homme-là, qui était pas académique et pas un prof, voulait me dire quelque chose de vital. Il y avait une urgence, une impatience, assurée, hein, mais quelque chose de vital allait m'être dit, et ça, ça m'a marqué à tout jamais.
C'est fou que vous ayez perçu ça. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais quand on lit le discours de la méthode, c'est que c'est un texte pas seulement de philosophie, avec une méthodologie et avec l'exposé de principes philosophiques, c'est aussi un texte autobiographique. Il parle de lui à l'âge de 23 ans, il parle de son rapport avec ses profs, avec les livres, le fait qu'il dise qu'il ait besoin de voyager, de rencontrer des gens. Et il a cette nuit d'illumination à 23 ans, donc, devant son poêle, en peignoir, en se disant qu'il doit tout réapprendre. Il y a quelque chose, effectivement, de franchement incarné. Par contre, moi, le côté rebelle, je ne l'ai quand même pas senti comme vous, Laurence de Villers. Je me suis quand même dit, voilà, c'est quand même monsieur devant son poêle qui veut reconstruire toute la philosophie.
Ah, mais Géraldine, monsieur tout seul. Monsieur tout seul. Enfin, Descartes, c'est l'outsider par excellence. C'est hors système. Vraiment. Système académique. Il était militaire. C'était un engagé volontaire. Alors, pour moi, cette image vraiment du rebelle, du réfractaire à tout ce qui serait une mainmise sur sa pensée et sur lui, ça me fascine. Ça m'a fasciné et ça me fascinera toujours. Et c'est ça qui fait que Descartes échappera de toute façon au cartésianisme. Parce qu'il se prête pas justement au isme. Il appartient à aucune université, donc ça fait ce... Enfin, imaginez quand même qu'il décide, et il le raconte comme ça à la première personne. Voilà, c'est ça, il faut oublier tout ce qu'on a entendu sur Descartes pour le lire, en fait. Il faut vraiment y aller à main nue, sans cartésianisme, et l'écouter. Il décide tout seul, et il le raconte, de reprendre tout le savoir. Alors, pas seulement tout le savoir en faisant un inventaire, mais... de refonder totalement le savoir pour une fois pour toutes, à tout jamais, être certain de ce qu'il saura. Et ça inclut le corps, Dieu, ça inclut tous les objets cartésiens.
L'âme,
l'entendement, le fœtus, le fou, les femmes, puisqu'il écrit pour que tout le monde puisse le lire, le discours de la méthode. Donc en fait,
il écrit pas en latin, justement.
Il écrit pas en latin. Et en fait, Descartes, il reconstruit un monde. Avec Descartes, vous avez quand même quelqu'un qui, sans l'aide de rien, je pense que si le terme de modernité a un sens, c'est là qu'il se joue. C'est-à-dire le fait que on n'a pas d'héritage, on est tout seul. Et tout seul, on va reconstruire un monde.
Est-ce que c'est grâce à lui, Laurence de Villers, que vous avez décidé de faire de la philosophie et de devenir enseignante?
Ah oui. Alors moi, j'ai décidé de faire de la philosophie avant de savoir ce que c'était. Donc, j'ai été électrisée par Descartes et par Nietzsche. Alors, vous imaginez l'état dans lequel j'étais.
Oui, mais ça, c'est paradoxal. Vous avez décidé quand même d'être enseignante, de suivre quand même un parcours d'excellence de l'enseignement de la philo, à savoir normal sup, l'agrégation, le doctorat, enfin l'habilitation à diriger des recherches, etc. Alors que Descartes est un personnage hors système. Donc, comment on fait pour devenir enseignante alors qu'en fait, ce qui nous plaît, c'est le côté rebelle, comment on arrive à peut-être de l'intérieur avec Descartes à faire vaciller ce système?
Je pense que je le suis. J'appartiens pas au système. Et mon patron, c'est Descartes. Et puis après, je me suis choisi quelqu'un pour le trahir, parce que tout maître doit être dûment trahi. J'ai choisi quelqu'un qui était encore plus hors système, qui était Pascal.
Donc, on va en parler aussi parce que vous avez décidé d'évoquer plusieurs, notamment Descartes, ça va être quand même le principal, figure qui vous a insulé et dont on va parler ensemble. Mais il y a aussi Pascal. Alors effectivement, qu'est-ce qui vous manquait peut-être chez Descartes, malgré tout?
En fait, d'abord, il y a la trahison. Je pense qu'à un moment donné, quand on a vécu longtemps avec quelqu'un, avec un philosophe...
je ne savais pas sur quoi vous allez vous embarquer là, mais...
Il y a la volonté de le trahir parce qu'on veut tester la liberté qu'il nous a donnée. Moi, c'était ça. J'avais besoin de mettre à l'épreuve Descartes. Il m'avait tellement... ça a tellement été un guide. Mais vraiment, je dis guide, vous savez, très souvent on dit « Ah, mais la philosophie, est-ce qu'elle t'a servi dans la vie ?» Oui, Descartes m'a servi dans la vie, elle me sert toujours. Mais je pense que c'est ça, la force cartésienne, c'est qu'il m'avait donné une telle liberté que je voulais la mettre à l'épreuve de lui-même. Et alors... Enfin, ça m'a paru évident parce que j'étais fascinée par Pascal depuis très longtemps. Mais je me suis dit, arrivé à un certain âge, comme Descartes le fait lui-même, arrivé à un certain âge, il faut absolument que j'aille dans Pascal. Donc, Pascal a introduit de l'inquiétude dans mon parcours cartésien. Vraiment. Et c'est le mot que j'ai choisi. J'ai fait mon habilitation à diriger la recherche sur l'inquiétude chez Pascal parce qu'il y a vraiment cette idée que... Non pas que je sois sûre de rien chez Pascal, ce serait tellement trop simple. C'est que je veux absolument être sûre, je peux y parvenir sans être jamais certain de ce dont je suis certain. Vous voyez, c'est ça l'inquiétude. C'est pas que je ne sais rien. Ça, c'est beaucoup trop facile. Il va le reprocher à Montaigne. C'est une solution de facilité et de paresse pour Montaigne de dire je ne sais pas ou que sais-je. Non, lui, il sait qu'on veut, qu'on a au fond de nous un désir qui nous taraude de parvenir à la vérité et au bonheur, et les deux vont ensemble. Et qu'en fait, on ne peut pas y parvenir et qu'en même temps, on ne peut pas y renoncer. C'est ça l'inquiétude chez Pascal. C'est vraiment une maladie orpheline. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait de la recherche et des remèdes pour y parvenir. C'est qu'à la fois, je ne peux pas renoncer à savoir. Mais je ne peux pas renoncer non plus au fait que je ne sais pas. Que je n'y arrive pas. Et donc ça introduit de l'inquiétude dans quelque chose qui m'a aidée à être assez assurée dans la vie grâce à Descartes.
Donc finalement, Descartes vous rendait presque trop optimiste.
C'est une bonne question. Je sais pas si c'est optimiste.
Donc vous aviez besoin un peu de noirceur, Pascal.
Ah oui, alors j'aime la noirceur. De toute façon, je dis souvent que moi je suis une adepte de la philosophie noire, comme il y a des romans noirs, qui ne cherchent pas à consoler, mais à dire pourquoi on ne sera pas consolable. Ça m'intéresse. Et Pascal, c'est vraiment, il le dit dans ce fameux fragment qu'on cite toujours, que l'homme ne peut pas rester en repos dans une chambre. C'est pas ça qui est intéressant. C'est sa conclusion. Parce que, à y penser de près, rien ne peut nous consoler. Alors ça, c'est une phrase. Enfin, la première fois que vous lisez ça, rien ne peut nous consoler. Et en plus, quand vous êtes cartésienne, où la question de la consolation se pose pas avec Descartes, pourquoi elle se pose pas? Parce que Descartes se donne d'emblée les moyens de se consoler. Donc la question va passer
avant même d'avoir le temps d'être triste.
Alors ce Descartes, l'homme derrière le cartésianisme, ça a quand même failli rater, Descartes. La fin de la première méditation se termine par quelque chose que je trouve nietzschéen, où Descartes dit, en fait, je préférerais être dans l'erreur et la servitude envers l'erreur et dans les illusions, plutôt que de me lancer dans cette entreprise philosophique de chercher la vérité. Parce que la vérité, c'est pas sûr que ça me plaise. Et il dit, ainsi que l'esclave qui, dans ses chaînes, rêve de liberté, j'ai bien envie de rester comme ça. On aurait pu se terminer comme ça, hein, Descartes. Donc il y a vraiment quand même le... De toute façon, c'est le 17e siècle, hein, donc c'est un siècle où on passe par la noirceur. Donc,
et mais c'est pas péjoratif. Il a quand même une forme de puissance, alors, Descartes. Enfin, voilà. En tout cas, pas de puissance, mais d'optimisme.
Alors, en tout cas, chez Descartes, il y a l'idée que ce qui compte, c'est de ne pas séjourner dans cet état où soit je préférerais l'illusion, parce que finalement, il n'y a rien de mieux qu'être un imbécile heureux, ou je me lancerais tête baissée de façon téméraire dans mon entreprise en me disant « oui, c'est archi facile ». Ça, c'est pas Descartes. Descartes, c'est « je connais le prix à payer ». Mais le prix le plus éminent, comme dira Peggy de lui, et c'est bien vu, le prix le plus éminent pour un cartésien, c'est d'arriver quelque part. Si vous voulez, le pire pour un cartésien, c'est l'errance. C'est pas l'erreur, hein. Même si le gros problème de Descartes, c'est comment expliquer l'erreur. Mais le pire de tout, c'est l'errance. Et c'est pour ça que j'ai choisi le discours de la méthode, parce qu'il y a dans le discours de la méthode, je l'ai quelque part dans mon sac ou dans ma poche, ce texte qui me suit depuis...
Non, vous le connaissez par cœur, même.
Non, pas bah par cœur, mais est-ce que vous allez me demander de le réciter?
Non, on l'a enregistré.
Ah ben, ça sera mieux dit que moi, mais oui, il me sert dans la vie, oui, c'est pas de la rhétorique quand je dis ça.
Eh ben, on va justement écouter ce passage du discours de la méthode de René Descartes auquel vous faites référence, Laurence de Villers.
Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Imitant ceci, les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir. Car par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai, c'est une vérité très certaine que lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables. Et même qu'encore que nous ne remarquions point davantage de probabilités aux unes qu'aux autres, nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes, et les considérer après, non plus comme douteuses en tant qu'elles se rapportent à la pratique, mais comme très vraies et très certaines, à cause que la raison qui nous y a fait déterminer se trouve telle. Et ceci fut capable, dès lors, de me délivrer de tous les repentirs et les remords qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants qui se laissent aller inconstamment à pratiquer comme bonnes les choses qu'ils jugent après être mauvaises.
Vous connaissez donc par cœur, Laurence de Villers, le discours de la méthode. C'est un extrait. Alors ce texte, il est divisé en 6 parties. Descartes le dit au tout début. On peut lire d'une traite, mais comme c'est un peu long, on peut aussi le lire chacune de ses parties. Il y en a 6. Là, on est dans la 3e partie, celle où Descartes a donc entrepris de réformer complètement le savoir, de s'écarter des opinions, des livres, des enseignements qu'il a reçus, des coutumes qu'il a pu rencontrer chez d'autres, dans d'autres pays, de s'éloigner aussi des sens et de l'imagination. La question reste, comment agir quand en fait on ne sait plus rien? C'est ce qu'il appelle sa morale provisoire. Et c'est cet extrait-là que vous avez décidé de nous faire entendre, Laurence de Villers, et que vous connaissez par cœur, donc j'en témoigne.
Mais parce que, alors d'abord parce que, voilà, une fois que je l'ai lu, comme je vous disais, j'ai senti que là, quelqu'un me donnait le meilleur conseil de ma vie et qu'il ne fallait pas que je passe à côté. Et ensuite, parce que je crois qu'on n'insiste pas suffisamment dans l'étude de Descartes sur l'agir. Alors, je vais exagérer un tout petit peu, mais je pense que le vrai cogito, il est là. Parce que, contrairement à ce qu'on a entendu en préambule, pour Descartes, ce qui compte, c'est quand même vivre. Et bien vivre. Et le doute se prête pas à la vie, parce que la vie, c'est ce qui ne me laisse aucun délai. Il y a une temporalité de la vie où, en fait, on est toujours en retard sur ce qu'on vit. Et là, en fait, Descartes, c'est abrupt ce qu'il va nous proposer, parce que comment je peux être cartésien, c'est-à-dire avoir cette exigence de clarté, de précision et d'évidence dans la vie qui n'a rien de tout ça? Et c'est là que le conseil est vraiment puissant. Et quand je dis il y a comme un cogito, oui, parce que je pense que ce que nous dit ce texte, c'est que là aussi, dans mes actes, dans ma vie, je dois pouvoir dire « ego sum, ego existo ». Là aussi je suis, là aussi j'existe. Et ça me semble important chez Descartes de se dire non seulement que j'existe, mais où j'existe aussi. Et dans mes actions, je pense que Descartes soutient qu'il y a une manière comme amplifiée d'exister. Alors, ce qui implique d'éviter tous les regrets, les remords, ça c'est
oui, vraiment... c'est important, c'est quelque chose qu'on entend à la fin, mais c'est presque faire table rase, c'est-à-dire vraiment foncer tête baissée, c'est même étonnant. On a presque l'impression de lire un texte un peu irrationnel, de quelqu'un de déraisonnable complètement.
Bah en fait, c'est déraisonnable d'être raisonnable. Parce que on a l'impression qu'être raisonnable, ça serait vraiment se fier à la bonne route, avoir un GPS, avoir des livres avec soi. Et vous avez remarqué que l'homme, selon Descartes, enfin, c'est presque Beckettien, hein, qui est un grand lecteur des auteurs du 17e, Beckett, mais la vie, c'est quoi? C'est être un voyageur égaré au milieu de la forêt. On oublie hein, que c'est ça Descartes, on oublie d'abord qu'il a des images très puissantes, des métaphores. Ça serait encore un autre sujet, la présence de la métaphore en philosophie. Hein. Mmh. Et il donnera pas d'autres exemples. Vous voyez, tout part de cet exemple, il va pas le traduire concrètement.
C'est-à-dire que la forêt, l'égarement dans la forêt, c'est l'image
c'est la vie.
De Descartes.
C'est la vie. Vous voyez, on ne le représente pas du tout comme ça, Descartes. Hein. On voit un jardin à la française. Bah, pas du tout, l'exemple qu'il donne...
Moi, je le vois en peignoir devant son poêle.
Bah, vous voyez, voilà. Changez, sortez-le du poêle. La vie, c'est quoi? C'est être un voyageur égaré en pleine forêt, au milieu de la forêt. La forêt du 17e, c'est Charles Perrault, hein, qui est un autre très bon philosophe du 17e, mais qui est le lieu des loups-garous, des ogres, enfin la non-civilisation par excellence. Et donc, sortez-le du poil, parce que ce que Descartes vous dit, c'est comment vous allez faire pour vivre quand il n'y a pas de route tracée. Mais c'est vrai, il n'y a pas de route. Et c'est intéressant de nos jours avec le développement personnel qui nous donne tellement d'injonctions. Descartes vous dit, mais non, il n'y a pas de recette pour vivre. Il n'y a pas d'injonction. Il n'y a rien. C'est la nuit dans la forêt, d'une certaine façon. Enfin, c'est la nuit de la forêt. Mais comment vous faites? Mais il serait plus raisonnable de se dire, il faut que j'aie des moyens très rationnels pour trouver ma voie. Pas du tout chez Descartes. Même si c'est le hasard qui vous fait prendre à gauche, par exemple. Même si c'est pas la bonne route. Même si c'est plus long. Même si vous allez rencontrer des loups-garous sur le chemin. Ce qui compte, c'est d'être résolu dans l'usage que je fais de ma décision et de ma volonté. C'est ça qui compte. Mais c'est pas du volontarisme.
Alors allez-y, c'est pourquoi c'est pas du volontarisme?
Parce que c'est ce que vous alliez me dire, c'est du volontarisme.
Non, j'allais dire, étonnant de lire ça sous la plume de Descartes, ou en fait, par rapport à l'image qu'on se fait de Descartes, de se dire en fait que ce qui compte, c'est moins la pensée que l'agir, et c'est moins la raison que la volonté.
Mais même que la passion. Enfin, alors ça, c'est autre chose que je tiens à dire avant de vous répondre. C'est qu'il y a une lettre de Descartes qui est très très belle, où il n'a pas donné de nouvelles, et il dit, dites-vous que...
À qui? Il n'a pas donné
à Mersenne, à un correspondant, et il dit, dites-vous que je vis, que je philosophe et que je vis passionnément. Ça, c'est ça Descartes, enfin, c'est l'apologie de la passion. Pour Descartes, une grande âme est celle qui éprouve les passions les plus violentes. Donc c'est pas du tout dans son poil, bien tranquille.
On n'est pas dans la régulation des plaisirs, des passions.
Non, pas du tout. Descartes, c'est l'intensité de vie, et donc de philosopher. C'est vraiment, faut y remettre du feu.
Mais un feu, donc, comme vous disiez, qui n'est pas celui, on pourrait se dire, je sais pas, de l'héroïsme, du volontarisme, je fonce tête baissée, peu importe, je vais peut-être dans un mur, dans un arbre, peu importe.
Alors, c'est pas celui du volontarisme, parce que je trouve que le problème avec le volontarisme, c'est qu'il a déjà réglé son compte au réel avant de s'y confronter. Oui, c'est ça le volontarisme. C'est quoi qu'il arrive, fais preuve de volonté.
J'ai un programme. Voilà. Tout va plier.
Exactement. Fais preuve de volonté, t'y arriveras. Et c'est pas intéressant, c'est assez pauvre le volontarisme, parce que ça honore pas le réel et son adversité. Descartes, c'est le contraire, t'es au milieu de la forêt, et qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, errer, et le pire de tout, non, il y a pire encore, s'arrêter. S'arrêter en une place, c'est affreux. Pour un cartésien, s'arrêter. C'est ce qui fera que Peggy dira, c'est un cavalier français parti d'un si bon pas, c'est... S'arrêter, enfin l'immobilité pour un cartésien dans la pensée, c'est pas possible. Et donc, il va dire, même si c'est le hasard, même si c'est pas la bonne route, même si vous ne la tenez que de vous, vous avez remarqué ce rebelle. Il n'y a pas de balise, il dit pas de s'en remettre à Dieu, à quiconque. Hein. Quand vous voyagez, il n'y a rien d'autre que le voyage. C'est ça, hein, la modernité extrême, je trouve, de Descartes. Il n'y a rien au milieu de cette forêt que vous et quoi ? Bah, le fait que vous allez décider d'une route. Et ce qui compte, c'est d'être résolu, ferme et résolu. Oui, c'est le contraire du volontarisme. C'est pas j'ai réglé son compte. C'est je vais tenter de m'en sortir alors que j'ai une seule arme. Ma volonté et, pour être plus précise, la passion que j'ai à faire preuve de volonté. C'est pour ça que je vous parlais de passion. Il y a une passion propre chez Descartes à ne jamais se dire « je laisse à d'autres le soin de décider, je sais pas, j'hésite ». Et cette passion, il invente un mot, hein, il faut lui donner un nom à cette passion que la volonté a pour elle-même. Il l'appelle générosité.
Ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on se dit, la générosité qui serait plutôt la croyance en l'autre, donc on pourrait faire à un autre que soi en tout cas.
Non, en fait la générosité chez Descartes c'est l'estime de soi, c'est ce qui fait que je peux m'estimer, c'est une générosité envers soi-même.
Et je comprends pas comment on en arrive à ça chez Descartes, l'étymologie du mot générosité.
Genius, comme votre génie naturel. C'est qu'est-ce qui en vous et votre propre amplitude, vous voyez si je dois le traduire. C'est quoi votre amplitude ? Et pour avoir une amplitude d'existence et d'être, chez Descartes, les deux à la fois, donc dans l'agir, ben faut éviter le pire de tout, l'immobilisme et les regrets et les remords, qui sont un immobilisme. Hein. C'est dire,
j'aurais dû revenir en arrière.
Ouais. Ah, complètement. C'est passer à côté de sa vie, c'est marcher à côté de sa vie. J'aurais dû, j'aurais pas dû. C'est vraiment marcher à côté de sa vie. Et alors moi qui suis quelqu'un qui a tendance à énormément regretter, absolument tout. Descartes, ça a été mon maître, parce qu'il vous dit, mais ne regarde pas en arrière, regarde ce que tu es maintenant et cette générosité, cette amplitude d'être que tu as. Vis-la passionnément, vis passionnément l'usage que tu peux faire de ta passion et de ta volonté, qui est de choisir ta route. Alors elle sera à toi, tu seras tout seul. Remarquez, c'est pas peuplé sa forêt, hein. Tu seras tout seul. Mais t'existeras vraiment.
Mais les regrets, on va parler de Pascal après, Laurence de Villars, mais avant, quand même, restons sur Descartes, les regrets, l'inquiétude, le doute, en plus le doute, qui va vraiment, on parle du doute cartésien, c'est quand même important sur ce chemin, c'est-à-dire sans s'arrêter, sans errer, sans régresser, on peut quand même douter, et puis même parfois tirer quelques leçons en se disant « j'ai pris une mauvaise route ». Est-ce qu'il faut continuer quand on doute forcément ? Est-ce qu'il faut continuer si on s'est trompé de chemin ?
Alors, la liberté cartésienne n'est pas un entêtement. Si c'était un entêtement, c'est-à-dire « je sais que je me plante, mais j'y vais quand même », ça, c'est pas cartésien. Mais le doute, il est là parce que en fait, Descartes dit, même si ces raisons qui nous font aller à gauche plutôt qu'à droite sont douteuses, vraisemblables seulement, et pas vraies, faut quand même les prendre. Donc, c'est pas foncer tête baissée. C'est « je sais que c'est peut-être pas le meilleur chemin ». Mais le pire est de ne pas se décider, voilà, de ne pas se choisir. Et vous savez, ça me fait, enfin, je trouve qu'il y a une, je suis pas la première à dire ça, hein, mais il y a une rencontre entre Descartes et Corneille, une rencontre symbolique, hein, ils se sont pas rencontrés, qui me semble importante. Il y a un autre personnage de Corneille je trouve qu'il y a deux cogito, hein, dans le XVIIe siècle. Il y a celui de Descartes avec son prolongement, là, dont on est en train de parler, et puis à la fin de la troisième méditation aussi, où il dit, il conclut cette troisième méditation en disant « je suis l'infini que je ne suis pas, parce que j'ai l'idée d'infini, c'est ça moi ». Donc vous voyez, il y a ce prolongement. Puis il y en a un autre chez Corneille dans Médée, où il y a ce passage où la servante de Médée lui dit « votre pays vous hait, votre époux est sans foi, dans un si grand revers, que vous reste-t-il ? » Et que répond Médée à la cartésienne ?« Moi, vous dis-je, et c'est assez. Quoi, vous seule, madame ?» Oui. Ce « oui », quoi, vous seul, madame ? Oui. C'est exactement ce que nous dit Descartes dans ce passage où « qu'est-ce que vous avez dans votre forêt, dans votre vie ? Votre pays vous est, c'est possible, hein, votre époux est sans foi, ça c'est archi possible, mais que vous reste-t-il ? Moi, dis-je, et c'est assez. »
Et puis il y a quelque chose aussi qui nuance cette idée d'aller dans n'importe quel sens, c'est que la troisième maxime, alors j'ai pas dit un mot sur la première maxime, de cette morale provisoire, c'est le fait de suivre les lois et coutumes de son pays, bon, ok, basique. Deuxième maxime, celle qu'on a entendue, être résolu en ses actions, et la troisième maxime, c'est changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Ça nous met des bornes quand même, c'est-à-dire qu'en gros, on va pas pouvoir abattre des arbres, on va pas pouvoir changer le sens de la forêt, en revanche, on va pouvoir s'orienter différemment, nous.
Totalement, c'est ce qui fait que cette assurance cartésienne, cette générosité, donc cette amplitude d'être qu'on gagne par l'usage de la volonté, c'est ni un entêtement ni une folie. Enfin, c'est la folie, ça serait au sens de pas de maladie mentale, hein, mais de cette espèce d'outrance. Je pense qu'on peut la trouver dans le pouvoir, par exemple, qui veut toujours être
réformer le monde.
Voilà, aussi puissant, même aussi puissant que le réel. Vous avez vu qu'à un moment donné dans le pouvoir, il y a un abus de pouvoir qui fait dire « Non, non, c'est pas comme ça le réel, c'est comme je le veux. Ben » ça, c'est pas cartésien. Ça, c'est pas cartésien. C'est-à-dire que chez Descartes, il faut éviter, il faut désirer à hauteur de volonté. Vous n'allez pas vous épuiser à désirer des choses qui sont pas en votre pouvoir, au pouvoir de votre volonté, et du coup qui vont abîmer l'estime que vous avez de vous-même. Il faut vraiment désirer à hauteur de volonté.
Est-ce que vous ne pensez pas que cette morale provisoire, bon déjà elle n'a rien de provisoire, non. En fait, puisqu'on est tout le temps dans une forêt, et que la destination finale, bah, c'est la mort quand même, mais aussi en fait qu'on l'a tous en tête sans forcément se dire qu'on est cartésien ou qu'on a quelque chose de Descartes. C'est-à-dire que finalement, bah, on avance dans la vie, en fait, quoi qu'il se passe. Au bout d'un moment, on comprend bien qu'on ne peut pas changer le monde sans être forcément défaitiste ou démobilisé, mais on comprend bien que c'est nous qui allons nous adapter.
Oui, mais alors Descartes a tout caractère de résignation. Ça, c'est au contraire... J'avance avec une tranquille. Voilà, il y a une tranquillité au sens philosophique, une assurance tranquille cartésienne. Que, évidemment, que va faire voler en éclats Pascal, mais c'est pas une résignation, c'est pas du fatalisme. Ah oui, c'est comme ça, je vais pas changer. Mais c'est le refus du c'est comme ça quand même. Puisqu'à chaque fois, s'il y a un c'est comme ça, ma volonté le valide. Donc, vous voyez, c'est ni un fatalisme, ni une résignation. Sinon, il y aurait pas de passion à le vivre. C'est le moyen. Oui, d'éviter encore une fois le fait de regarder sa vie comme quelque chose qui vous est étranger. En fait, ce cogito de l'agir chez Descartes, c'est le fait de s'appartenir dans ce qu'on fait. Vous voyez, c'est pas l'idée que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. La liberté, c'est vouloir ce qu'on fait. C'est nettement plus difficile, hein. Est-ce que vous voulez ce que vous faites, est-ce que vous avez fait? Est-ce que là, vous signez et contresignez? Cette idée, moi, qui m'a léguée de s'appartenir, de continuer à s'appartenir, quoi qu'il advienne, c'est vraiment pour moi une éthique, enfin une morale.
Vous posez souvent la question?
Ah oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais surtout, je vous dis, je suis quelqu'un qui regrette beaucoup, j'aurais dû. Et là, évidemment, je me dis, ah non, ça sert à rien. C'est que tu amoindris ta volonté. Elle doit pas. C'est comme si vous mettiez votre volonté dans un placard en disant, ah ben là, t'es puni. Voilà, t'es puni, c'est une punition. T'es puni, t'as pas fait preuve de volonté. Ben non, chez Descartes, c'est pas une philosophie punitive. Enfin, c'est une philosophie passionnée. Donc.
Voire du bonheur, j'ai l'impression. Hein.
Ah ben oui, alors vous disiez, dans cette forêt, ce qu'on trouve, c'est la mort. Ah ben non. Non, non, ce qu'on trouve, c'est arriver quelque part.
Au bout, ouais, mais au bout, au bout du chemin.
Je sais pas.
Ah oui, c'est peut-être le bonheur, alors. Ben ça, c'est mon côté pascalien, alors.
Ah. Ouais, je sais pas si c'est la mort. En tout cas, chez Descartes, ce qu'on trouve à l'issue de ce passage par la forêt, c'est là où vous vouliez arriver.
Peut-être qu'on n'en sort jamais aussi de la forêt.
Ah ben, la vie et cette forêt. Et c'est marrant parce que, quand même, pour Descartes, philosopher, c'est pas tranquille dans son poil. Hein. C'est au milieu de la forêt. Alors, il y a quelque chose qui est proche de Dante. Hein, au milieu de ma vie, le chemin s'est effacé dans la forêt. Mais on philosophe pas de manière confortable. La philosophie, si elle doit venir vous trouver, c'est quand même quand vous êtes perdu au milieu d'une forêt. Sinon, elle
sert pas. Donc en peignoir, mais pas tranquille.
Bah, en peignoir, mais je refais le monde. Ou alors, enfin, moi, c'est pas.
Enfin, pas trop non plus, parce qu'on peut pas.
Non, enfin, je refais le monde sans mégalomanie. Je refais le monde à main nue, seul, avec comme critère qu'est-ce qui est clair et précis, distinct. Mais. Je sais pas, essayez de troquer ce Descartes en charentaise que vous avez pour le Descartes qui est.
Moi, ça me révulse pas, hein, les charentaises. Hein,
mais c'est pas Descartes.
Oui.
En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi. comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir. Et sur cela, j'admire comment on n'entre point en désespoir d'un si misérable état. Je vois d'autres personnes auprès de moi d'une semblable nature. Je leur demande s'ils sont mieux instruits que moi. Ils me disent que non. Et sur cela, ces misérables égarés, ayant regardé autour d'eux et ayant vu quelques objets plaisants, s'y sont donnés et s'y sont attachés. Pour moi, je n'ai pu y prendre d'attache. Et considérant combien il y a plus d'apparence qu'il y a autre chose que ce que je vois, j'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de soi. Je vois plusieurs religions contraires, et partant toutes fausses, excepté une. Chacune veut être crue par sa propre autorité et menace les incrédules. Je ne les crois donc pas là-dessus. Chacun peut dire cela, chacun peut se dire prophète, mais je vois la chrétienne où je trouve des prophéties. Et c'est ce que chacun ne peut pas faire.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait des pensées de Blaise Pascal, c'est la pensée 229. Ce texte a été publié en 1670, il est posthume. Mais vraiment, Pascal est contemporain de Descartes parce que le discours de la méthode, ça date de 1637. Et on trouve cette même image de l'homme égaré. Est-ce que Pascal a lu Descartes et a voulu aussi lui répondre en lui disant « Tu te trompes, il ne faut pas avancer tout droit, il faut rester dans cette forêt. »
Alors, il y a une tentation à lire Pascal comme l'interlocuteur ou celui qui répond à Descartes. Et moi, je me méfie de cette lecture parce que je trouve que c'est toujours amoindrir un auteur. Il ne fait que donner la réplique à. Mais ce qui est frappant, là, vous avez raison, c'est qu'on a deux égarés. Autant Descartes, ça semble surprenant de voir en lui un égaré, mais c'est quand même l'image qu'il donne de l'homme, autant Pascal, on s'y attend. Et puis, vous avez remarqué que la métaphore a changé. C'est plus la forêt, c'est la mer, en réalité.
Le naufrage, oui.
C'est le naufrage, mais parce que la mer, c'est encore pire que la forêt. Mais c'est aussi ce non-lieu humain, c'est l'inhumain. Voilà, c'est, vous savez, sur les cartes où on mettait « X sunt dragones », là sont les dragons, parce que la mer, de toute façon, est un dragon en soi. Donc, vous voyez, les images fortes, et encore une fois, deux philosophes, enfin Descartes, qu'on dit rationalistes, il utilise des métaphores en permanence, et Pascal, qui condamne notamment le théâtre, qui fonctionne par images, en utilise en permanence. Là, ce fragment 229, c'est presque filmique. Je trouve qu'on a presque affaire, on se représente cette image. Un homme naufragé sur une île déserte et effroyable. Alors, il y a plein de choses qui sont surprenantes. C'est que cette île déserte, elle est peuplée, puisqu'il demande à ses semblables. Et c'est la condition humaine. Qu'est-ce que la condition humaine chez Pascal ? C'est plus d'être égaré en forêt, mais c'est pas mieux, c'est d'être naufragé en une île déserte. Déserte pourquoi ? C'est pas tant parce qu'elle a pas d'autres habitants, mais il n'y a aucun signe qui nous dise quoi que ce soit.
Il n'y a pas de repère.
Il n'y a aucun repère. C'est un monde muet. C'est un monde muet, la vie ne nous parle pas, le monde ne nous apprend rien. Chez Pascal, on est en quête de signes en permanence, c'est ça, l'homme ne peut pas renoncer au sens de la vie, pour le dire avec des mots à nous. Mais il ne peut pas trouver non plus. Vous voyez, la situation absolument effroyable, justement, de ne pas pouvoir renoncer à savoir, mais de ne pas parvenir à savoir. C'est ça l'inquiétude pascalienne. Et ce naufragé, on l'imagine très bien courir partout en disant mais vous savez comment on peut se tirer de là ? Enfin, vous voyez, presque une... Moi, je dis souvent que chez Pascal, le tragique côtoie le comique, c'est pas l'un sans l'autre. On imagine une pantomime à la Buster Keaton, vous voyez ? Il court partout. Vous savez comment on s'en sort ? Non, mais il y a un bateau qui passe, vous voyez ? Et c'est ça qu'on fait en permanence. On essaie dans cette vie où il n'y a aucun signe de ce qui nous attend, de ce à quoi on sert et pourquoi on est là, on essaie de s'en trouver en permanence. Notamment le divertissement, qui n'est pas la distraction, mais qui est le moyen. Alors là, j'ai jamais été convaincue quand on disait que le divertissement chez Pascal, c'était pour tromper la mort, c'est pas vrai. Je pense que c'est pour tromper la vie. Et le fait que dans la vie, on n'a pas l'impression qu'il y ait du sens, qu'il y ait une signification à quoi que ce soit. Alors on s'en trouve, on s'en fabrique. la guerre, les femmes, le jeu, la cour, l'ambition, le pouvoir.
La drogue.
Bah bien sûr, parce qu'elles sont les machines aussi. Donc on se trouve dans cet univers qui ne nous parle pas, qui est parfaitement muet, qui ne nous attendait pas, qui nous survivra, qui ne nous parle pas, qui ne nous dit rien. Bah on essaie de se créer un monde un peu plus familier où on va danser le menuet, dit Pascal, on va partir en voyage, on va explorer, découvrir, coloniser, on va avoir des ambitions, on va écrire des livres de philosophie. Ben voilà, on essaie de se trouver du sens là où il n'y en a pas, mais on reste des naufragés sur une île déserte.
Mais ce qui est intéressant, justement, vous venez de dire, Laurence de Bellard, on écrit des livres de philosophie. Alors, est-ce que vous y voyez, par exemple, dans le fait d'écrire un livre de philosophie, la volonté, comme on la trouve chez Descartes, c'est-à-dire où le sens, en fait, on va décider du sens que l'on donne à notre vie, ou au contraire, une sorte de divertissement pour tromper la vie? Bon, un divertissement comme un autre, parce que de toute façon, les signes ne viendront pas, il n'y en aura pas, ils ne seront jamais à la hauteur de notre errance.
Alors, je pense que...
Si je prends un livre de philosophie, c'est même sur l'exercice de la pensée, hein, bien sûr.
Alors, c'est ambivalent chez Pascal, parce qu'il condamne le fait qu'on passe notre vie à ne pas vouloir penser et à ne pas penser à nous et au sens de la vie. Il le dit. Si les hommes songeaient un peu plus à eux, s'ils pensaient, s'ils prenaient le temps de réfléchir, ils s'inquiéteraient un peu quand même de l'état dans lequel ils sont. Et ils se diraient, pourquoi chercher à nous divertir sans cesse de la vie, et pas de la mort, hein, pas d'intérêt, mais nous divertir de la vie, si comme on me le prétend, la vie est un tel bonheur. Pourquoi on fait ça? Donc, en fait, il critique le fait qu'on ne pense pas suffisamment. Et en même temps, il critique la philosophie comme entreprise de pensée. Donc, vous avez les deux, mais je pense qu'il y a une erreur à dire que la philosophie n'intéresse pas Pascal et qu'il n'en fait pas. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous dites que la philosophie s'est trompée et qu'il faut en faire autrement que vous pensez que la philosophie vaut pas une heure de peine. C'est pas vrai. Je ne pense pas.
Pascal sauve quand même quelque chose.
Ah ben, je pense qu'il y a une philosophie, oui, chez Pascal, bien sûr, une philosophie même.
Mais surtout, une valorisation de la philosophie par Pascal. C'est-à-dire que nous, on le lise comme un philosophe, c'est une chose, mais que lui considère que ce qu'il faisait, c'était œuvre de philosophie, et donc, d'une certaine manière, utile, dans le sens, utile à lire, justement, pour dire aux hommes, ouvrez les yeux, en fait, si vous avez besoin d'être divertis, c'est que vous voulez tromper la vie, qu'est-ce qui se passe? Donc là, si lui-même avait cette idée-là, ça veut dire qu'il y voyait quand même une utilité, on peut le dire, sans que ce soit dans le sens vulgaire du terme.
Je pense que l'utilité de la philosophie qu'écrit Pascal, enfin qu'on peut trouver dans les pensées, encore une fois, vous l'avez dit, hein, c'est le livre d'un mort. Il est mort avant d'avoir écrit ce qu'il voulait écrire. Donc, on a reconstruit plus ou moins bien. Hein. Pascal veut nous tendre un miroir. Il veut nous dire, attends, arrête ta course, regarde. Regarde-toi. Pense à toi. Arrête tes divertissements. 2 secondes. Réfléchis. Réfléchis. C'est quoi la vie pour toi? C'est quoi vivre? C'est ça. Il veut nous arrêter et vraiment nous tendre un miroir. Alors, un miroir qui est sans concession. Hein. Oui, Pascal, c'est pas pessimiste. En fait, très souvent, on me dit, oh là là, mais comment tu fais avec un auteur si... Non, il est pas pessimiste. Il est
un peu drôle aussi, quand même.
Ah mais oui, moi, je trouve qu'il y a un comique. Enfin, vous savez, le contemporain aussi, c'est Molière. Hein. Moi, je suis toujours étonnée, j'ai pas d'explication. Mais de cette convergence entre Molière et Pascal. C'est... alors là, l'image que j'ai choisie, le fragment 229, c'est pas... On rit, mais un peu jaune, je suis d'accord. Hein. Mais il y a des passages dans Pascal, enfin, qui sont... On a l'impression du bourgeois gentilhomme, donc... C'est en se moquant de nous qu'il veut qu'on arrive à être lucide. Voilà, c'est la lucidité par le rire.
Et comment on fait pour allier les deux, Laurence de Bellard, entre Descartes et Pascal? Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai eu besoin quand même d'un peu de Pascal pour arrêter un peu. Non pas que la volonté soit toute puissante chez Descartes, mais pour dire, je m'arrête un peu, qu'est-ce que je fais, où je vais, voilà.
Alors déjà, pour Pascal, la volonté, alors en cela, il reprend ce que disait son maître, Saint-Augustin. La volonté, elle veut, bien sûr, mais elle ne peut pas ce qu'elle veut. C'est bien embêtant. Augustin disait qu'on avait une volonté de manchot, enfin amputée. Donc je peux vouloir, hein. Enfin tous ceux qui ont voulu arrêter de fumer, manger du chocolat, quitter quelqu'un, le savent, hein. On veut. Mais on peut pas ce qu'on veut. C'est ce que Pascal appelle la misère. On n'a pas les moyens de notre volonté. Et ça, oui, ça inquiète énormément la volonté cartésienne. Hein.
Mais on trouve un peu ça quand même chez Descartes. C'est-à-dire le paradoxe d'une volonté. On veut, mais on ne veut pas. Par exemple, oui, effectivement, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais je ne veux pas arrêter de fumer.
Mais c'est le plus bas degré de la volonté chez Descartes. C'est vraiment cette volonté hésitante.
Mais c'est quand même la même volonté. C'est-à-dire que même si c'est la volonté.
Oui, mais parce que Descartes va nous dire la volonté est capable d'être déterminée et résolue. Elle est capable, c'est ça que j'appelle s'appartenir soi-même, elle est capable de tenir. Chez Pascal, elle tient pas. Et c'est ça que veut nous montrer Pascal. Alors, c'est une autre forme, un autre aspect de la modernité. Chez Descartes, je disais que c'est avancer tout seul sur le chemin où personne ne vous a précédé. On est sans legs ni héritage, en quelque sorte. Et Pascal, lui, va nous dire, le problème, c'est que le chemin, la terre s'ouvre sous nos pas. C'est un autre aspect de la modernité. C'est que là où on aimerait avancer, en fait, le fondement craque, dit Pascal. C'est... On n'a rien, on le sait, nous, je crois, de nos jours, nous, contemporains, hein, on sait que, d'une certaine façon, c'est quand même Pascal qui a raison, c'est que ce qu'on croit être des socles, des fondements, quelque chose de solide, peut se fissurer et craquer, on peut tout perdre. On peut tout perdre.
Alors, c'est le moment où il est bon, peut-être, de revenir à Descartes, ou alors de faire appel à un autre philosophe que vous nous avez aussi suggéré, Laurence de Villers.
Bon, où en étais-je ? Ah oui, le bonheur. Eh bien... Pour le bonheur, aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas, comme ça, sans penser à mal, ingénument, « je suis heureux ». Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites ? Eh oui, que faire des lépreux ? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco. J'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Étonnez-vous après cela que le monde ait mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout hélas quand on est un écrivain.
C'était le 12 mai 1959, gros plan avec Albert Camus. C'était une émission de télé de la RTF. Ça fait beaucoup rire, Laurence. Ah ouais.
J'étais contente de l'entendre et j'ai eu l'impression en l'écoutant, mais alors vous allez dire que j'ai un biais cognitif. C'est que pour moi, Pascal, il s'inscrit dans la grande tradition de la philosophie française, dans laquelle il y a Nietzsche. Donc, français, c'est pas au sens de nationalité, hein, puisque Nietzsche dit qu'il écrit sous la dictée de Pascal. C'est la tradition de ce qu'on a appelé les moralistes, vous voyez, cette idée que n'avouez jamais, attention, c'est jamais aussi sûr que vous le pensez. Et ça, c'est Pascal, hein, c'est que quand il semble nous concéder quelque chose, il nous dit ah bon, vraiment. Et là, je trouve pour moi, Camus, c'est un auteur du XVIIe siècle, et d'ailleurs, c'est ce que Sartre a dit de lui, hein, dans un éclair de lucidité de Sartre.
Ou c'était peut-être un pic, non, aussi,
pour dire qu'il était toujours, un peu daté. Toujours ouais. Chez Sartre, de toute façon, c'est pour montrer que. Personne ne sera aussi bon philosophe que lui. Il l'a dit de Merleau-Ponty, il le dit de Camus. Enfin, il y a un mépris sartrien quand même. Je suis désolée pour les sartriens, mais il y a quand même un mépris. Et donc, il le dit quand il doit recenser l'étranger. Il dit là, on sent la grande tradition des morales. Bah oui, c'est vrai. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle la beauté aussi de cette philosophie. Et vous voyez, c'est important dans Camus, ce passage où il dit je crois que pour aider les autres, il faut être fort et heureux. Moi, je retrouve cette idée de s'appartenir chez Descartes. Pour un peu, on a l'impression qu'il va poursuivre et dire « ego sum, ego existo ». Moi aussi, je suis, j'existe, avec ce soupçon pascalien qui est « ah bon, vraiment, vous êtes heureux ?»
Avec l'ironie, en fait, un peu.
Voilà. Et ça, il y a quelque chose d'un noyau dur de la philosophie française. Encore une fois, je dis française, c'est pas national ni nationaliste, bien évidemment, puisque dedans, je mets Nietzsche.
Donc il y a une forme d'esprit qu'on retrouve, en fait, entre Pascal et Camus. Est-ce que vous diriez aussi que cet esprit, on le retrouve chez Descartes, que Descartes, on peut aussi le lire comme un moraliste, c'est-à-dire avec des aphorismes, des pensées, des sortes de petites phrases qu'on se garde comme ça dans la poche.
Vous voulez pas écrire un livre, Descartes moraliste?
Descartes, ah non, je vous laisse le soin de le faire, Laurence Villard, je crois que vous y connaissez beaucoup mieux que moi.
Bah oui, on pourrait, pourquoi pas. Alors, ce qui m'a fait hésiter, c'est que... À mon époque, qui commence à dater, j'ai pas eu cours sur Pascal.
C'est quoi votre époque ?
Mon époque, j'ai eu la grecque en 93. Mm. Vous voyez, à peu près, je suis une fille des années 80, en fait. Et donc, mon époque, en philosophie, on n'enseignait pas Pascal et Montaigne, parce qu'on considérait que c'était pour les lettres. Donc il y avait un côté un peu péjoratif sur moraliste qui était c'est pas vraiment de la philosophie. Alors je pense que c'est une erreur, hein. Et heureusement on rectifie les erreurs, mais oui, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, moi, Descartes, je l'utilise. Alors, Pascal, j'ouvre souvent les pensées au hasard pour m'aider dans ma journée.
Et donc, dans une journée même.
Ouais, je l'ouvre au hasard. Bah, non, mais si la philosophie a un sens, elle doit vivre votre vie, non ? Enfin, ouais, mes livres de philosophie ne sont pas dans ma bibliothèque. Enfin,
Non, ils sont dans votre sac, dans votre poche.
donc on peut l'ouvrir comme ça en moraliste parce qu'il va me dire quelque chose. Et puis, Descartes, oui, je vous l'ai dit, c'est si vous naviguez, Descartes, c'est le capitaine quand même. Donc en moraliste, pourquoi pas ? Si l'idée qu'est la grande tradition stoïcienne qu'il faut avoir, c'est les hypoménata, il faut avoir les préceptes, les sentences dans sa poche. C'était fait pour ça, les écrits stoïciens, que reprennent les auteurs du XVIIe d'ailleurs. Ben oui, alors effectivement, ce sont des moralistes qu'il faut avoir dans sa poche. Enfin, je vois pas comment on ne peut pas avoir de la philosophie avec soi. Sinon, enfin, ça vaut pas la peine.
Et en ce qui concerne Descartes, est-ce que vous trouvez que son enseignement, justement, est trop de l'ordre du cartésianisme et pas assez de cette vie ? C'est-à-dire de montrer... Puis il y a aussi quand même l'écueil, vous l'avez cité, enfin, c'est pas forcément un écueil d'ailleurs, mais la forme du développement personnel, c'est-à-dire de le réduire à des préceptes, à des recettes. Oui, il y a ces maximes, est-ce que ce sont des recettes ? C'est-à-dire comment à la fois le lire dans cet entre-deux, entre... philosophie de la vie qui ne tombe ni dans le développement personnel, ni en fait dans une rigidité universitaire.
Ben je pense que c'est Camus qui propose une voie. C'est l'idée que chacun a droit à de la philosophie et que il faut éviter de séparer une philosophie qui serait une théorie de la connaissance, une philosophie qui serait uniquement réservée à un cercle d'universitaires et une philosophie qu'on pourrait transmettre et qui serait accessible. Je pense que c'est cette voie-là de Camus, de la voie de l'essai, enfin vraiment en majesté, hein. L'essai, c'est tenter quelque chose de philosophique de bout en bout, qui ne cède rien à la rigueur philosophique, mais qu'on puisse transmettre. Je pense que moi, Camus m'a appris, m'a donné cette exigence-là. Et vous me disiez, comment on vit avec Descartes et Pascal ensemble? En lisant Camus.
Regardez mes nouvelles choses. Elles vont faire des envieux. Écoutez, elles chantent le blues des enfants de la haute. Le bonheur ne me rend pas heureux. Un bel été tout en chaleur, des jours et des jours de ciel bleu. Dans le livre des records, 15 000 enterrements de mieux. Le bonheur ne me rend pas heureux. Le bonheur ne me rend pas heureux. Au résultat du concours, je décroche le premier prix. Toi tu restes dans la cour, tes rêves inaboutis. Le bonheur. Péri à vue d'œil et je pleure loin de tes lèvres et je tremble loin de ton cul. Le temps passe enfin, je me calme. Adieu le fouet de la folie, mais adieu aussi le napalm qui nous brûlait au fond du lit. Le bonheur ne me rend pas heureux. Ma curiosité s'émerveille, elle veut en savoir toujours plus. Plus je découvre des soleils, plus je nous trouve un minus. Le bonheur ne me rend pas heureux. Le bonheur ne me rend pas heureux.
Cette chanson, Laurence de Villers, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre, enfin les œuvres qui ont transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste. Lequel avez-vous choisi ?
J'ai choisi un auteur que je n'aimais pas.
Lequel ?
C'est Heidegger. Alors, je n'ai pas hésité hein, quand vous me l'avez demandé. J'ai des passions, autant j'ai des détestations. Et donc Heidegger, oui, c'est un vrai problème pour moi.
Pourquoi ?
Alors d'abord, je n'aime pas le jargon. Je vous ai dit que j'avais un rapport esthétique aussi à la philosophie. Et donc, je n'aime pas cette écriture jargonnante.
Il a aussi souffert de traduction.
Oui.
Bon, oui.
Ma tradition, c'est quand même des auteurs qui... Descartes, Pascal, Camus, qui ne mettent pas un jargon comme droit de passage. Vous voyez, il s'en est expliqué, Heidegger, bien sûr. Mais cette idée qu'il y a un droit de passage pour entrer dans la philosophie et que ce droit de passage, c'est... Est-ce que tu es capable de comprendre le jargon ? Moi, je le paie pas. Moi, je paie pas.
Donc, c'est comme ça qu'il l'a expliqué à Heidegger.
Oui, enfin, il explique. Vous allez me faire parler de Heidegger.
Ah bah oui, il nous reste encore quelques minutes.
Il explique aussi que, d'une certaine façon, alors il dit pas jargon, mais le caractère compliqué de l'écriture philosophique, c'est éviter pour de la ramener à quelque chose qui serait pas la philosophie. Alors ça, je peux comprendre, mais pour moi, c'est un effort. C'est l'effort que nous demande Descartes. Vous comprendrez rien en méditation si vous méditez pas avec moi. Mais Descartes n'a pas eu besoin de jargon pour faire ça. Il a eu besoin de trouver une méthode révolutionnaire d'exposition de la philosophie, qui n'était pas un traité, qui était justement des méditations. Donc le jargon me gêne énormément en philosophie.
Puis les concepts, j'imagine aussi.
Les concepts, dans le sens où vous avez raison d'abord, c'est que les concepts, c'est pas du langage courant. Ou alors c'est un mot du langage courant, générosité par exemple, et qui dit autre chose. Divertissement chez Pascal et qui dit autre chose. Mais alors, j'ai un problème avec l'authenticité par exemple, ce concept heideggerien de vie authentique, d'authenticité. Moi je me méfie énormément de l'authenticité. Parce que c'est cette philosophie des moralistes qui m'a marquée. C'est que moi je sais pas, d'abord je sais pas qui je suis. Vraiment, la question « qui suis-je ?» Normalement, une cartésienne vous répondrait. Je suis de plus en plus convaincue qu'on ne sait pas. À part dire « je suis, j'existe ». Et puis, le « moi » n'est pas intéressant et que l'authenticité est impossible parce qu'on s'échappe à soi-même. Donc, et ce côté, je ne suis pas la seule à l'avoir dit, mais ce moralisme sans morale chez Heidegger, si on veut faire une morale, qu'on en fasse une. Mais ça me gêne énormément. J'aime pas l'homme. Je n'aime pas l'homme. J'ai pas du tout envie de le découvrir derrière ses écrits, loin de là. J'aime pas tellement son attitude sous le Troisième Reich. Non, vraiment, j'enseigne. Alors, l'être pour la mort, alors vraiment, j'essaie de comprendre. Hein, et je pense que c'est toujours tout le contraire. Alors, moi, je suis frappée par la vérité qu'a mise au jour Hannah Arendt, à la fois proche et lointaine de Heidegger, celle de natalité, vraiment, que l'homme, elle dit, il faut compter au nombre des facultés de l'homme de faire des miracles, c'est-à-dire de faire advenir quelque chose de nouveau. Et elle dit, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est pas un enfant nous est né, stricto sensu, c'est nous sommes capables de faire naître quelque chose dans le monde. L'homme n'est pas absolument pas fait pour la mort. Et donc, de construire une philosophie avec l'idée... Je le dis à grands traits, bien sûr, hein, mais d'un être pour la mort, vraiment, ça. Mais je me vois même pas l'enseigner. De toute façon,
Vous avez jamais été obligé ou de le travailler, même vous l'avez eu pendant.
Alors je le travaille. Alors je biaise, mais à mon avis, c'est très fondé. Il y a des spécialistes de Heidegger qui diront si c'est juste ou pas, mais. Les fragments, alors on peut dire que des fragments 43 à 54 de l'être étant, voilà, il y a quelque chose. Mais c'est très pascalien, hein. C'est Pascal relu par Luther. Donc, tant qu'à faire, je fais Pascal, Luther. Et...
Oui, tout pour éviter de l'enseigner, en tout cas.
Bah oui, si vous me demandez d'être franche, c'est vraiment un philosophe qui me plaît pas.
Et vous pourriez dire non si on vous obligeait à le faire ?
Ah oui, oui. De toute façon, vous avez remarqué que je suis quelqu'un de libre, donc je dirais non.
Merci beaucoup Laurence de Villers. De vous, on peut lire La splendeur du monde, aller à la rencontre de la beauté, c'est paru aux éditions Stock. Ce que la philosophie doit aux femmes, l'histoire oubliée de la pensée, des origines à nos jours, coécrit avec Laurence Hansen-Löf, c'est aux éditions Robert Laffont. Sur Descartes, on peut lire votre Que sais-je. Et pour lire Le discours de la méthode de Descartes, c'est disponible, pour ne citer qu'une édition, en folio essai. Et un grand merci à Manon Delasalle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Noé Chabanne à la prise de son. Les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, c'est Géraldine Mühlmann et son équipe que vous retrouverez à ce micro pour une nouvelle série d'Avec Philosophie.